À Marseille, la vie associative est bouillonnante et les idées d'entreprendre, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, sont multiples. Dans le cadre du plan Marseille en grand annoncé par le président de la République en 2021, Marlène Schiappa est venue en septembre 2022 rencontrer quelques acteurs locaux dans la ville et s'inquiéter de la poursuite des carrefours de l'entrepreneuriat permettant à des jeunes d'être gratuitement formés et conseillés pour leurs projets professionnels. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative explique le but de sa visite dans la cité phocéenne et ce qu'elle pourrait mettre en place pendant son mandat. Lors de votre déplacement à Marseille, vous avez beaucoup de rendez-vous très éclectiques, très différents les uns des autres. Quel est le fil rouge de votre venue ?
Le fil rouge, c'est l'engagement et c'est le portefeuille ministériel que j'occupe aujourd'hui, qui a été créé par la Première ministre, qui a voulu réunir deux ministères qui étaient séparés précédemment, l'économie sociale et solidaire et la vie associative. Donc le point commun de ce champ ministériel, c'est toutes les personnes qui considèrent qu'on fait mieux ensemble que tout seul. Quelqu'un qui un jour a envie de créer une association ou créer une coopérative, c'est quelqu'un qui considère qu'avec les autres, on avance plus. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est toutes les personnes qui s'engagent au-delà du profit et qui considèrent qu'au-delà de la question du profit, par exemple, dans une entreprise, bien, la question de la place dans la société. Donc je vais voir aussi bien la fondation de l'OM que la Ligue contre le cancer ou aujourd'hui ces associations-là.
Le mardi 6 septembre 2022, elle rencontre quelques structures agissant à Marseille, dont les apprentis d'Auteuil, le carburateur, le transforama, la friche de la Belle de Mai, l'épopée, l'arborescence, l'association L'école buissonnière Lab, Sheba, Massa Jobs, mais aussi sont représentées la préfecture et la chambre de commerce et de l'industrie d'Aix-Marseille-Provence.
Le point commun sont des secteurs qui sont engagés et qui font pour les autres, avec bien sûr le congrès de la mutualité française demain.
Et qu'est-ce que vous pourriez apporter au niveau national pour ces acteurs locaux ?
D'abord de l'écoute, c'est vraiment ce que je m'attache à faire aujourd'hui, vraiment d'être à la disposition des acteurs pour qu'ils puissent se sentir libres de nous faire leur retour, y compris dans ce qui ne va pas forcément dans notre sens ou dans ce qui peut être amélioré, ou en nous disant parfois on a besoin de faire sans vous. C'est un des messages aussi que j'ai pu entendre là, des acteurs qui font du porte-à-porte pour aller identifier des jeunes dans les quartiers plus populaires et qui nous disent quand on va voir des jeunes, on ne veut pas arriver en disant immédiatement on est financé par l'État, le département, la métropole. On veut arriver en tant que nous-mêmes, avoir un dialogue de jeune à jeune. Et ensuite, vous pourrez réintervenir dans le process. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir entendre.
Est-ce que vous avez ou vous allez discuter avec les responsables des collectivités pour que dans le contexte actuel, ils puissent garantir le maintien des subventions essentielles au fonctionnement des associations?
Oui, bien sûr, puisque je suis chargée de la vie associative, donc quand je vais les rencontrer, j'aurai cette discussion. Évidemment, dans le respect de la libre administration des collectivités, il n'appartient pas au gouvernement d'ordonner aux élus locaux de prendre telle ou telle orientation. Et d'ailleurs, ça peut être aussi parfois dans l'autre sens. Moi, ça m'est arrivé dans mes précédentes fonctions que des élus locaux, des maires ou des maires adjoints me disent « Attention, cette association-là, il faut qu'elle soit plus soutenue par l'État ». Donc je pense que c'est un dialogue et qu'on pourra brosser ce panorama ensemble. Les subventions aux associations, elles sont fondamentales, qu'elles viennent de l'État ou des collectivités. Et moi, en étant chargée de la vie associative, je n'ai pas vocation à subventionner les associations secteur par secteur, mais j'ai vocation à m'assurer que le secteur associatif puisse garder sa vitalité, continuer à être subventionné. Et on le disait tout à l'heure, parfois le travail associatif, c'est un travail de long terme et ça peut être un travail d'accompagnement et de plaidoyer.
Par rapport aux associations, vous aviez le projet que le bénévolat soit reconnu comme formation. Qu'en est-il de ce projet-là ?
L'idée, c'est de transformer en fait l'expérience en diplôme. Donc c'est un dispositif qui peut déjà exister. Il y a plein de salariés qui s'en sont saisis. C'est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et en général, quand on a été dans une association, on a acquis des compétences. Par exemple, si vous avez été trésorier pendant des années pour une association et vous avez géré ses comptes, ben, potentiellement, vous pouvez être en capacité d'avoir un diplôme de comptabilité, de gestion, etc. parce que vous avez appris la pratique avant la théorie. Il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes ou qui sont en reconversion et qui sont dans ce cas-là. Je pense par exemple aux personnes de plus de 50 ans qui avaient un métier, qui avaient une formation, qui ont passé leur diplôme il y a 20 ou 30 ans et qui ensuite se sont engagées dans une association et qui ont acquis de nouvelles compétences. C'est important pour moi qu'elles puissent les transformer en diplôme. Donc on est en train de lancer un travail de concertation pour ensuite aboutir à une plateforme qui permette en quelques clics de s'engager dans cette démarche de validation des acquis de l'expérience. Ça répond à deux objectifs. D'abord, valoriser les bénévoles. Ça fait partie de ma mission à la vie associative, dire que les bénévoles sont des gens qui, par nature, s'engagent de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Il faut qu'on puisse les valoriser. Et d'autre part, à l'objectif de plein emploi du président de la République, qui vise à dire que quand vous avez été bénévole quelques années, peut-être vous avez été éloigné du marché de l'emploi parce que vous étiez au chômage ou parce que vous étiez, par exemple, parent et vous avez pris des années pour s'occuper de vos enfants ou tout autre cas de figure, vous pouvez vous réinsérer dans le monde du travail.
Pour revenir sur le carrefour de l'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez déjà établir un premier bilan ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes qui pourraient passer par ce carrefour de l'entrepreneuriat ?
On n'est pas sur un nombre de jeunes encore, c'est un petit peu tôt pour cela, mais il y a des bilans réguliers qui seront faits et qui seront faits en équipe par le gouvernement, puisque c'est un sujet qui concerne aussi bien mon périmètre, mais aussi la ministre de la Jeunesse, Sarah El Haïry, le ministre de la Politique de la Ville, Olivier Klein, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui peuvent être aussi concernés par ce projet, puisque c'est un projet transverse. Et au premier chef, bien sûr, le président de la République, puisque c'est lui-même qui les a impulsés pour Marseille. En revanche, je peux vous dire qu'il y a déjà 600 000 euros qui ont été déployés pour 27 associations qui sont les partenaires de l'État dans ce travail et qui font cette mission difficile d'aller sourcer, c'est-à-dire aller identifier ces jeunes qui pourraient être porteurs d'un projet ou qui pourraient avoir envie de porter un projet et ensuite les diriger vers les structures d'accompagnement jusqu'à la création du projet.
Merci beaucoup, Monsieur.
Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à vous. Merci.
Au revoir.